Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes très nombreux ce soir. On est très heureux de vous accueillir. Alors, bienvenue à cette nouvelle édition des figures marquantes de notre histoire. Vous le savez peut-être, cette troisième saison est consacrée aux figures de proue de la Nouvelle-France. Aujourd'hui, il sera question d'un grand navigateur, d'un homme qui a beaucoup fait peur aux Anglais, d'un homme qui a été, dit-on, on le présente comme le fondateur de la Louisiane, Pierre Lemoyne d'Iberville. Pierre Lemoyne d'Iberville, c'est probablement, il fait partie de la première génération de Montréalais. Il est né en 1661 à Montréal. Je vous rappelle que Montréal avait été fondé à peine 20 ans avant. Il est décédé dans des circonstances extrêmement mystérieuses dans les Antilles et son corps a été enterré, tenez-vous bien, à La Havane. D'ailleurs, il faudrait bien un jour rapatrier ses restes au Québec. Je suis sûr que vous serez d'accord avec ça. Ça pourrait faire une très belle cérémonie, d'ailleurs, avis au gouvernement québécois. Alors donc, ce personnage plus grand que nature, il a vécu durant la deuxième moitié du 17e siècle. Et il y a une belle phrase de Guy Frégaud, son biographe, une belle phrase de Guy Frégaud lorsqu'il tente de résumer la Nouvelle-France. Il dit, au fond, la Nouvelle-France, c'est une longue patience et une folle audace. La longue patience des colons, des habitants qui ont fait de la terre, qui l'ont transmise aux générations qui ont suivi, qui ont dû apprivoiser un territoire très inhospitalier, climat difficile, mais aussi une folle audace. Si vous regardez la carte de la Nouvelle-France durant la seconde moitié du 17e siècle, c'est absolument incroyable, l'expansion de cette colonie. Hein? Une expansion qu'on doit à qui? Eh bien, qu'on doit à des explorateurs, un peu comme Pierre Lemoyne d'Iberville, mais à d'autres, des explorateurs qui espéraient trouver toujours une route pour aller vers l'ouest et qui espéraient aussi peut-être trouver des richesses en passant. On la doit aussi à des missionnaires qui voulaient aller convertir des païens aux confins du continent et qui racontaient dans des récits qu'on a conservés ce qu'ils découvraient, ce qu'ils apprenaient. On la doit aussi à des coureurs des bois, qu'on appelait aussi des voyageurs, qui faisaient la traite des fourrures, qui rencontraient donc, qui vivaient parmi les Amérindiens pendant quelques mois, parfois quelques années, qui revenaient tatoués, habillés, comme souvent des Amérindiens. Donc, on doit cette expansion, cette folle audace, pour reprendre les mots de Guy Frégaud, à tous ces gens. Et quand vous regardez la carte de la Nouvelle-France dans la deuxième moitié du 17e siècle, eh bien, vous voyez une expansion vers le nord, vers la baie James, une expansion vers l'ouest, les lacs supérieurs, les grands lacs. Et puis plus tard, au 18e siècle, on le sait, ça ira jusqu'aux Rocheuses, mais ça, on en reparlera avec un autre invité qui nous parlera de la Vérendrye. Ça va aussi vers le sud. On emprunte ce chemin nouveau qu'on ne connaissait pas, ou à peine, le Mississippi. Au départ, on pensait que le Mississippi pouvait peut-être aller jusqu'en Californie. Or, on découvre peu à peu, en le sillonnant, durant les années 1670, 1680, guidé par des Amérindiens, on découvre que ce fleuve se jette dans le golfe du Mexique. Et c'est là, en 1699 plus précisément, que Pierre Lemoyne d'Iberville va fonder donc la Louisiane. Donc, un personnage plus grand que nature, un personnage qui a fait vraiment trembler ses ennemis, que ses contemporains décrivent comme un meneur d'hommes, comme un navigateur et un militaire intrépide, sans être téméraire, et donc, un personnage qui a vraiment marqué ses contemporains et dont on parle encore, finalement. Alors, pour comprendre mieux ce destin, pour comprendre mieux ce personnage, on a invité une personne qui détonne par rapport à nos autres invités. En général, nous invitons des professeurs d'université, des chercheurs, mais lui, c'est quelqu'un qui est vraiment un passionné de la Nouvelle-France, un passionné d'histoire, qui a beaucoup étudié notre personnage. Il est évidemment un membre bien connu du groupe Loco Locas. Il est maintenant écrivain. Il vient de publier son 6e roman, d'ailleurs, qui est consacré en partie à un autre grand explorateur, Cadillac, qui a fondé Détroit. Je vous invite à le lire, on en reparlera. Alors, je vous demande d'accueillir chaleureusement Biz, alias Sébastien Fréchette. Bienvenue.
Merci. Merci, Éric. Bonjour, merci.
Alors, Biz, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.
Ça me fait plaisir. Merci de m'avoir invité.
Oui.
D'autant que, vous le disiez, je ne suis pas un spécialiste, je ne suis pas un professionnel. Moi, je m'intéresse à l'histoire comme je m'intéresse au hockey, c'est-à-dire dans l'optique d'une ligue de garage. Donc, je travaille fort dans les coins de l'histoire, mais en tant que vraiment en tant que passionné, vraiment.
Oui, en tant que passionné, parce que moi, ce que je constate, c'est que, bon, vous avez comme une deuxième carrière d'écrivain. Vous en êtes à votre 6e roman. Vous venez de faire paraître Cadillac. D'ailleurs, ce serait intéressant de nous expliquer brièvement comment vous en êtes venu à vous intéresser à ce personnage qui a fondé, dit-on, Détroit. Mais ça vous vient d'où, ça, cette espèce de volonté de mieux faire connaître l'histoire et de mieux faire connaître certains personnages comme ça de la Nouvelle-France?
Bien, je crois que c'est d'abord en m'y intéressant moi-même. Les souvenirs, on en discutait en coulisses tout à l'heure. Les souvenirs que moi, j'ai de mes cours d'histoire au secondaire, surtout concernant la période de la Nouvelle-France, ne sont pas très palpitants. Hein, on calculait les prix des minots de blé puis la fourrure. Alors, à un moment donné, on avait fait le tour, mais on ne nous a pas parlé des héros qui ont fait les héros de la folle audace dont vous parliez tout à l'heure. Et pourtant, ces héros-là, ils sont extraordinaires. Ils sont dignes des plus grandes mythologies. Là. Et ces gens-là sont réels. Là. Ils parcouraient un territoire, comme vous le disiez aussi, qui était pharaonique, dont on n'a même pas idée maintenant. Et pour être allé à Détroit en auto, là, c'est long par la 401. Là. Fait qu'il faut s'imaginer en canot par le nord avec les flèches iroquoises au travers de ça. C'est tout un contrat, là. Et Champlain qui faisait ses traversées, qui a fait une trentaine de traversées sans jamais perdre un seul bateau, qui était l'équivalent à l'époque d'aller sur la Lune, carrément. Ouais. Alors, on ne mesure pas. Et moi, je trouve que plus, en m'intéressant à ces figures-là, moi, ça me rend mon Québec plus supportable. Je veux dire, quand il fait moins 40 et qu'on pleure parce qu'on ne veut pas aller chercher du lait au dépanneur, bien, rappelons-nous qu'il y a des gens qui s'en mitouflaient de fourrure, Radisson, par exemple, qui partait de la baie James et qui s'en allait dans le nord de l'Ontario, avec une seule hache et un seul poignard, puis il y en avait pour 2 semaines de marche à manger ce qu'il trouverait, c'est-à-dire des corbeaux des fois ou des fois non quand il n'en trouvait pas. Donc, je veux dire, c'est inimaginable l'adresse, la ruse, la force de ces gens-là. Puis on n'a pas le droit, nous, d'être des momounes quand on a des ancêtres comme ça. T'sais, je veux dire, on n'a pas le droit de se plaindre qu'il fait trop fret au Québec maintenant, quand même.
Non. Non, c'est un peu gênant, en effet. Et puis Pierre Lemoyne d'Iberville. Quand est-ce que vous l'avez croisé? Parce que ce n'est pas la première fois que... Si on vous a invité, c'est parce qu'à plusieurs reprises, vous avez manifesté votre intérêt, votre passion pour ce personnage-là.
C'est vrai.
Vous avez même dit, moi, là, si j'avais un palmarès là, de toute époque, de toute catégorie, c'est le numéro un.
Moi, c'est mon héros préféré. C'est mon héros québécois préféré, toutes catégories confondues. Ça comprend René Lévesque, Papineau, Cartier, Champlain.
Oui, parce qu'il y avait du monde avant René Lévesque. Hein. Ça, des fois, on a...
Oui, clairement.
J'ai l'impression qu'il y en a qui l'ont oublié.
Et on peut considérer aussi Léo Major, le Rambo québécois qui a libéré un village des Allemands presque à lui tout seul. Donc, bref, on manque pas de héros. Mais souvent, je trouve qu'au Québec, on a eu tendance à glorifier historiquement, pour diverses raisons, les perdants sympathiques. Hein? Les patriotes, par exemple, Papineau qui harangue les troupes en enflammant avec ses discours. Et là, quand le feu pogne, ben, il s'en va aux États-Unis où il se réfugie à Paris. Et René Lévesque, qui a vraiment essayé, mais qui a perdu son référendum, qui a tendu l'autre joue avec le beau risque et tout ça. Alors que d'Iberville, lui, il ne mange pas de cette farine-là. Lui, c'est vraiment pas de « messieurs les Anglais, tirez les premiers ». C'est « messieurs les Anglais, je vais mettre mes raquettes puis je vais aller vous botter les fesses ». C'est comme… Moi, j'aime le fait qu'en 20 ans de combat, tant sur mer que sur terre, donc à partir de 25 ans jusqu'à 45 ans, il n'a pas perdu une seule bataille. Et il en a fait des batailles. Il en a livré de la baie du Thon jusqu'aux Antilles. J'aime le fait aussi qu'il soit violent. Que quand il y a des attaques amérindiennes à Montréal par les Iroquois, il comprend que ce sont les Anglais qui les arment. Puis il dit, on va aller les frapper où ça fait mal, puis il descend frapper les Anglais en disant, les ennemis de la patrie ne doivent pas être ménagés. Moi, j'aime cette posture vengeresse et violente parce que je trouve qu'au Québec, on est né pour un petit pain, il faut être gentil, il faut tendre l'autre joue. Moi, à un moment donné, des fois, non. Il faut arrêter de se faire piler ses pieds, des fois.
Voilà.
Ça promet?
Je pense que vous n'êtes pas le seul, visiblement. Oui, vous n'êtes pas le seul.
Non, mais en même temps, on le disait aussi, c'est quand même extraordinaire qu'on refuse des gens pour venir entendre parler d'un corsaire de la Nouvelle-France. Je veux dire, moi, ça me conforte, ça me rassure. On n'a pas tellement de jeunes en secondaire 1, mais quand même, je trouve ça... Il y en a au moins un, quand même. Mon garçon qui est là aussi, il en fait deux. Mais quand même, que les gens manifestent de l'intérêt pour notre histoire, pour notre passé, pour nos héros, je trouve que c'est quand même bon.
Absolument, absolument. Puis c'est tant mieux. Et pour d'autres aussi, conférences, on a eu salle pleine. Pierre Lemoine d'Iberville, donc, première génération de Canadiens. Peut-être nous dire un mot sur justement le fait. Pour vous, c'est important.
Ouais.
C'est vraiment... Quand on dit Canadien, vous comprenez bien que pour les Français de l'époque qui venaient travailler en colonie, on disait un Canadien, c'était ni un Amérindien et ni un Français.
Voilà, c'était un nouveau genre, c'était un croisement génétique même parfois. parce que les Français qui arrivaient ici se rendaient bien compte que les gens n'étaient plus Français très rapidement, ne serait-ce qu'à cause du climat, ne serait-ce qu'à cause du contact avec les Premières Nations aussi. Donc déjà, on n'était plus dans le mode opérationnel de Paris puis de la France en général. Donc lui... Quand on parlait, on m'avait demandé pour la revue Argument de d'écrire un texte sur Pierre Lemoine d'Iberville. Puis moi, j'avais commencé le texte en disant, si on fait souvent des palmarès, le plus grand joueur de hockey de l'histoire, par exemple. Bon, alors, là, il y en a qui s'ostinent. C'est un défenseur, c'est Gordie Howe. C'est un attaquant, c'est-tu Gretzky? C'est-tu Mario Lemieux? C'est-tu Maurice Richard? Ça dépend des époques. C'est difficile de comparer parce que les calibres ne sont pas les mêmes puis les pièces d'équipement non plus. Donc, de la même manière, je me suis dit, amusons-nous à faire un palmarès des plus grands héros de l'histoire du Québec. Donc, qui on mettrait là-dedans? C'est sûr, on a nommé Papineau, Lévesque, tout ça. Faudrait aussi nommer Trudeau père, même s'il y en a qui grinceraient des dents. Il ferait partie du lot. À quelle place il serait, ça, c'est une bonne question. Faudrait nommer, par exemple, Gondiarong, l'architecte de la Grande Paix, le grand chef amérindien. Donc, il faudrait nommer, par exemple, Marianne Gaboury, la grand-mère de Louis Riel, qui était la première européenne à aller dans l'Ouest. Donc, il y en aurait du monde à nommer. En quelle position on les met? Évidemment, ces palmarès-là, ça n'a aucune valeur, à part que celui du plaisir de discuter de notre histoire autour d'un verre, puis de se tirer à pipe. « Oh, moi, j'aime mieux lui, moi, j'aime mieux lui. » Pourquoi je commence avec d'Iberville? Évidemment, je compte pas Champlain et Cartier qui ne sont pas nés ici. Alors, pour moi, pourquoi d'Iberville est important? Il est important à cause de ce qu'il a fait, à cause de son attitude, à cause de ce qu'il a été. Mais il est important parce que c'est un des premiers, voire le premier grand-fils de la Nouvelle-France. C'est lui qui a reçu en 1698 le premier, la Croix de Saint-Louis, qui récompensait, remis par des mains de Louis XIV en personne, donc qui récompensait le mérite militaire, qui n'était pas tellement prisé en France, mais en Nouvelle-France, elle avait une grande, grande valeur, cette récompense-là. Et lui, l'a obtenu, c'est le premier Américain, en fait, à avoir obtenu cette... Donc, moi, à cause de ça, je pense que c'est un jalon dans notre histoire en disant, c'est sûr que Champlain est plus important que d'Iberville dans la mesure où c'est lui qui a jeté les bases de la colonie, vraiment, là, avec un projet et avec son génie. Mais comme il n'est pas né ici, je le considérerais pas dans un palmarès de Québécois, mettons.
Dans ce palmarès-là, certains de nos grands-parents, arrière-grands-parents, auraient peut-être intégré Dolore Desormeaux.
Oui.
Dolore Desormeaux qui a joué un rôle en 1660, l'année avant la naissance. puisque Montréal était une ville très exposée au moment de la naissance de Pierre Lemoyne.
Absolument, et qui a permis à Radisson d'envoyer son convoi de fourrure à Trois-Rivières. Ouais. Mais c'est ça, Dollard, il est ambigu comme héros.
Il est plus ambigu, oui.
Lui, c'est un perdant qui s'est fait, en défendant son fortin, a lancé un baril de poudre qui a ricoché sur une branche, qui a fait exploser son propre fort. Et là, il s'est fait ramasser par les Amérindiens à cause de ça.
Oui.
Donc, bon. C'est semi... moi, j'aime mieux qu'on consacre une fête aux Patriotes qu'un gars qui se fait exploser. Mais bon.
Oui, je comprends. Je comprends.
Mais sinon, parce qu'on parlait... Il naît à Montréal en 61, juste à côté, ici, sur la rue Saint-Sulpice, dans le Vieux-Montréal. Donc, c'est vraiment un pur Montréalais, jus.
Parlez-nous de sa famille.
Ben c'est ça. Son père est un Normand qui est arrivé ici, je crois, en 1645. Et rapidement, il devient un truchement, c'est-à-dire un interprète pour le commerce des fourrures. Il apprend quatre langues autochtones qu'il parle plus ou moins couramment. Et se met, évidemment, à l'époque, on est donc deuxième moitié du 17e, le commerce de fourrures est à son apogée. C'est le fondement, l'existence même de cette colonie-là. Et lui devient un commerçant de fourrure, un armateur. Et il faisait partie, ça d'ailleurs, j'aimerais ça m'imaginer, il faudrait faire des films avec ça, de la bourgeoisie de la fourrure de Montréal, les grands fourreurs de Montréal, qui ont donné naissance à une grande tradition aussi de fourreurs moins respectables que ceux-ci. Mais il y avait une vraie bourgeoisie. Il faut s'imaginer donc des seigneurs avec des côtes de fourrure puis des grands capots qui avaient relativement de l'argent et de l'influence aussi sur la destinée politique. Il y avait une petite coterie, là, une petite clique de d'Iberville père en faisait partie. Mm-hmm. Il a eu une très grande famille aussi, une dizaine d'enfants. Mm-hmm. Malheureusement, d'Iberville est tellement éblouissant qu'il a fait de l'ombre à sa fratrie, mais ses frères ont participé avec lui à des expéditions. Il y en a un qui a gouverné la Louisiane aussi. Il y en a un qui a été un des architectes de la Grande Paix aussi. Donc, la famille d'Iberville est absolument, extraordinaire. Elle a une grande influence sur le destin de la Nouvelle-France, vraiment. Mm-hmm.
Et qu'est-ce qu'on sait, justement, de sa formation, de comment il a été éduqué, puisque, bon, il n'y avait pas, évidemment, beaucoup d'institutions. Et en plus, pour un militaire, comment il s'est formé? Comment il a...
Bien, il était destiné à la prêtrise au début, donc ses parents, parce que quand tu as une famille de 10 enfants, tu en donnes au moins un à Dieu, hein, c'est la moindre des choses. D'une part, il faut dire qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur d'Iberville en général et sur le début de sa vie et la fin de sa vie en particulier. Parce que lui-même, comme il a écrit et de la façon dont il écrit, parce que si vous lisez la biographie de Frégo, on voit texto comment il écrit, c'est clair que ce gars-là est allé à l'école, c'est sûr. Donc, probablement qu'il est allé avec les Jésuites de Montréal. On voulait le former, mais à un moment donné, rapidement, il a délaissé le goupillon au profit de l'astrolabe parce que lui, ce qui l'intéressait, c'était la navigation. Et il a passé sa jeunesse sur les bateaux de son oncle mm-hmm. qui était marin. Et à 20 ans, il était devenu un excellent capitaine de navire, un maître de la navigation fluviale, donc la navigation du fleuve et du golfe qui était particulière. Il fallait gérer les glaces aussi. Donc, il a vraiment appris son métier, contrairement aux Français qui débarquaient ici. Lui, il est né dans le fleuve. Alors, il le connaissait très bien. Il connaissait les eaux glaciales, qui l'a beaucoup aidé, d'ailleurs, dans la baie du Tson, avec ses combats ultérieurs.
Mm-hmm. Mm-hmm. Alors, peut-être un petit épisode sur sa jeunesse. Vous dites qu'il n'y avait pas trop le tempérament pour devenir un religieux. D'ailleurs, il a été accusé en 1686. Il a eu des petits problèmes avec la justice. Il a été accusé de crimes de rapt et séduction.
Oui. Bien, c'est ça.
Qu'est-ce que c'est, ça?
C'était bien avant hashtag
peut-être
moi aussi.
Peut-être que la conférence va s'arrêter maintenant, là, si on apprend ces choses-là. Là.
Oui, c'est ça. Mais tu vois, moi, c'est ça que j'aime aussi de ces grandes figures-là, c'est qu'ils ne sont pas les statues lisses que l'histoire en a fait. C'était évidemment des gens de chair et de sang, avec tout ce que comporte de faiblesse quand ça concerne la chair. Grosso modo, il a mis une fille enceinte et il a refusé de la marier après que la fille lui a annoncé qu'il avait un fils, un enfant. Et donc, ça l'a poursuivi parce qu'à l'époque, évidemment, pour l'Église, c'était inconcevable qu'on ait des enfants.
Oui, et pour les femmes, c'était une façon de montrer que, bon, on n'était pas une femme légère. Il y avait un engagement.
Voilà. Il y avait l'honneur de la femme elle-même, oui. Il y avait l'honneur de la famille, la femme aussi, le père de la femme. Donc, il y avait beaucoup de pression qui était mise pour que régulariser les réputations, si on peut dire. Et donc, ça s'est pas fait. Et lui, évidemment, d'Iberville, c'était pas compliqué. S'il y avait des ennuis avec la justice à Montréal, il prenait son bateau, s'en allait en Baie-du-Son ou dans les Antilles, puis il y avait la paix assez rapidement. Mais ça l'a suivi. Ça a été une tâche longtemps. Parce que ce qu'il faut savoir aussi avec l'histoire de la Nouvelle-France, elle a été, dans un premier temps, racontée essentiellement par des religieux. Et donc, il y avait un biais moral sur ces héros-là. Ce qui explique, par exemple, qu'on a très peu de choses sur Cadillac, parce que lui-même était aussi un fourreur, mais lui, vraiment dans les deux sens du terme. Et donc, ces figures-là, qui avaient des mœurs moins conformes à l'idéologie de l'Église catholique, ont été balayées au profit de Champlain, par exemple, qui a toujours été admirable.
Ben, oui, qui est devenu plus pieux plus qu'il vieillissait.
À la fin, c'était pas clair s'il n'avait pas été huguenot aussi en France aussi. Mais donc, les religieux avaient leurs grandes figures. Et celle de d'Iberville, elle n'était pas, effectivement, elle ne correspondait pas parfaitement. Mais par contre, je pense que n'importe quel curé était obligé de s'incliner devant sa bravoure. Et surtout, ce qu'on n'a jamais pu mettre en cause au niveau d'Iberville, c'est son patriotisme pour le roi de France. Il a vraiment toujours travaillé pour le roi de France, contrairement, par exemple, à Radisson, qui, lui, a changé d'employeur parce
qu'il avait été reçu assez froidement.
Ben voilà, parce que ça, il faut bien le dire. Quand on dit Radisson est un Virgapeau, Radisson est un traître, c'est comme ça qu'on nous l'a présenté dans mes cours d'histoire. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à la suite de la bataille du Lonceau avec Delord des Ormeaux, il conduit un convoi de fourrure d'une valeur inestimable, inégalée, probablement.
Il vient de très loin, en plus.
Qui vient des grands lacs de l'Ontario. Oui. Et lui ramène ça triomphant à Trois-Rivières. Et il se fait accueillir à Trois-Rivières. Le gouverneur, puisqu'il n'avait pas demandé de permis de traite, alors il emprisonne son beau-frère.
Desgroseilliers.
Il donne une amende à Radisson lui-même et il lui saisit sa cargaison de fourrure où il y en a pour des millions de dollars de l'époque, dit-on. Alors là, il dit, OK, vous ne voulez rien savoir de moi, vous ne voulez pas mon expertise. Moi, je m'en vais où c'est qu'est le mouton, comme dirait l'autre. Puis là, il a contribué à la fondation.
Il s'en va aux États.
Oui, bien, à l'Angleterre de l'époque. Oui. Et il a contribué à la fondation de la Baie-du-Son. Ouais.
Mais on parlait de... Mais quand même, Pierre Lemoyne d'Iberville s'est marié. Il a eu par la suite des enfants. Donc, il s'est marié par la suite, après cet épisode. Et il a eu des enfants, je crois.
Oui. Mais ça, d'ailleurs, c'est pas tout à fait clair parce que... Une fois qu'il a été capitaine et qu'il a commencé ses aventures de marin, il est revenu, après la Baie-du-Son, il n'est presque pas au Canada de l'époque, c'est-à-dire dans la vallée du Saint-Laurent. Il naviguait en France, il devait aller à Versailles souvent pour convaincre Pontchartrain, le ministre de la Marine, d'investir dans la Nouvelle-France et de financer ses expéditions. Et après ça, il est allé en Louisiane, donc il se promenait beaucoup. Et il a eu un domaine à la fin de sa vie en France où sa femme et certains de ses enfants sont restés aussi. Donc, il a probablement eu une descendance bicéphale en France et au Québec.
Alors, sa carrière de marin, de navigateur, elle commence vraiment au milieu des années 1680, presque au même moment où il a ce petit problème avec la justice. Mais peut-être juste un mot sur la Nouvelle-France à ce moment-là. C'est quoi les enjeux? Comment ça se passe avec les Anglais ou avec les Iroquois à ce moment-là?
C'est ça. C'est une colonie qu'on appelait dans les livres d'histoire un colosse au pied d'argile parce que c'est un territoire qui, à l'apogée de son territoire, donc vers la fin du 17e, justement, s'étend de la baie du Tson jusqu'aux Rocheuses, jusqu'au golfe du Mexique, puis jusqu'à l'Atlantique avec l'Acadie. Donc, c'est un territoire absolu. C'est un continent. Littéralement, c'est un continent, mais qui est extrêmement peu peuplé. Essentiellement dans la vallée du Saint-Laurent. Puis dans ces années-là, on parle de peuplement de 6500 personnes environ, donc c'est très peu. Et la Nouvelle-France, à ce moment-là, est articulée autour de deux pôles, de deux grandes idées, qui est celle de l'ancrage paysan, donc le cultivateur, qui est très valorisé par les institutions religieuses, et le peuplement, le peuplement français qui encourage à prendre racine dans le territoire. Et le coureur des bois, le voyageur, l'interprète, le truchement, qui, lui, il faut le comprendre, est souvent un jeune Français qui part d'une France sclérosée. On dirait que l'histoire se répète parce que là, j'ai vu cette semaine que les Français font la file pour immigrer au Québec maintenant.
Le maire Labeaume, là, ces jours-ci.
Voilà. Alors, il est allé faire du recrutement.
Ouais.
Comme j'imagine, les intendants de l'époque, Talon, pouvaient en faire aussi. Mm. En disant aux jeunes, un jeune apprenti, par exemple, un jeune charpentier, qu'il fallait qu'il passe par les étapes du compagnonnage pour devenir, faire son chef-d'œuvre. C'est très complexe. Alors, les Jésuites venaient les recruter directement en disant, si t'es capable de clouer un clou, ben nous autres, il faut qu'on construise des églises puis des missions dans un grand lac. Fait qu'on a besoin de toi. Donc, ces gens-là arrivaient, ils partaient d'un territoire qui était très régenté, très policé. La terre, c'était pas possible. Si tu avais 10 enfants, tu léguais la terre, bien, c'était à l'aîné seulement. Les 9 autres devaient se débrouiller. Donc, ils arrivent dans un territoire entièrement vierge, où il peut partir dans le bois, aller s'amuser avec les Amérindiennes, qui sont à l'époque des sociétés très, très libres, où la femme n'a pas de consentement paternel à demander pour jouer au monsieur et à la madame. Donc, ce qui fait que les gros barbus, quand ils débarquent dans le bois, ils font ce qu'ils veulent, ils ont du plaisir, ils se promènent, ils vivent des aventures extraordinaires, ils sont libres, ils n'ont pas de police, ils font leurs horaires comme ils veulent, ils bossent, par exemple, ils travaillent. Mais ça, c'est très attrayant pour les jeunes Français qui débarquent ici. Donc, l'imaginaire ou l'ADN québécoise est entre ces deux pôles-là, l'ancrage dans le sol agricole et la figure du coureur des bois qui est libre et qui est en fait un entrepreneur aussi.
Ouais.
Donc, à cette époque-là, c'est ça, la Nouvelle-France est essentiellement tournée vers l'économie de la fourrure. Donc, tous ces grands chapeaux que portent les Européens, en Europe du Nord, les grands chapeaux en feutre de castor qui est très prisé parce qu'il est imperméable et qui donne une fourrure de qualité. Donc, c'est la coquetterie des hommes européens, essentiellement, qui a permis à la Nouvelle-France de s'implanter.
Parlez-nous donc de cette première grande expédition à la baie James, au nord.
À la baie du Tusson.
À la baie du Tusson. Comment ça se passe et pourquoi à cet endroit-là précisément?
Alors, à ce moment-là, il fait partie il s'intègre avec un de ses frères, deux de ses frères d'ailleurs, dans une expédition pour aller reprendre la baie du Tusson aux Anglais. Parce qu'à cette époque-là aussi, c'est la France et l'Angleterre se disputent le continent européen, mais ça se répercute dans la banlieue ou dans l'arrière-cour aussi. Sur le continent, c'est la même chose. Les Anglais, les Britanniques sont confinés entre les Appalaches et l'Atlantique, mais ils contrôlent évidemment eux autres aussi le commerce de fourrure et on s'aperçoit rapidement que les castors du Nord, leur fourrure est de plus grande qualité parce que plus épaisse, parce qu'il fait plus froid. Et la baie du Tusson est un territoire privilégié pour la trappe, la prise des fourrures. Donc essentiellement, il s'agit d'aller implanter un fort, soit sur la baie James, soit sur les bords de la baie du Tusson, d'attendre que les Amérindiens nous ramènent la récolte de l'automne ou de l'hiver. Et au printemps, on accumule ça dans le fort et au printemps, on repart avec ça par le nord, en Angleterre ou en France. Et donc, d'Iberville, c'est mandaté par le gouverneur et il fait partie d'un contingent d'une centaine de personnes, d'un détachement mené par des Amérindiens. Donc, il part au mois de mars avec des canons, des traînes sauvages en raquettes, avec des traîneaux à chiens. Faut s'imaginer, là, je veux dire, aller à la baie James en auto, maintenant, c'est long, là. Alors, faut s'imaginer la démesure de se rendre là seulement. Et finalement, il se rend là.
Il se rend là pour faire la guerre.
Oui, pour faire la... Oui, c'est ça, parce qu'un coup rendu, la partie n'est pas finie, ça commence.
Oui.
Et donc, il doit capturer le fort et se rendre maître du territoire de la baie du Tusson pour dire aux Amérindiens, bien, vendez-nous vos fourrures à nous autres. Et donc, il arrive au fort et les Anglais sont très bien armés, mais ils n'ont pas trop pensé aux provisions. Alors, il les assiège et au bout de quelques jours, les Anglais sortent les mains sur la tête. Il prend possession donc du fort, des fourrures, des munitions et même d'un bateau qui était à l'ancre aussi. Donc, rapidement, cette expédition-là est un triomphe. Lui, il était lieutenant de l'expédition parce qu'il était très jeune à l'époque. Il avait dans la jeune vingtaine. Et il revient en revenant à Montréal. Déjà, il a réolé de sa première grande mission, qui est un franc succès.
Alors, cette expédition à la baie du Tusson, qu'est-ce qu'elle révèle sur l'homme, sur ses talents, sur ses capacités?
Bien, rapidement, quelqu'un qui est qui est capable d'intrépidité, mais c'est un analyste, c'est un génie militaire, en fait. Vraiment, il comprend qu'est-ce qu'il faut faire pour comment faire la guerre, en fait. Et la guerre, il a fait, il adapte sa guerre au territoire. C'est-à-dire que la plupart des Européens qui viennent ici, que ce soit les Anglais ou les Français, ils se battent dans la neige avec leurs grandes redingotes puis leurs gros canons, puis ils sont pesants, ils sont pas mobiles, ils sont figés. Alors que lui, comme il intègre les détachements amérindiens, comme son père connaît bien les Amérindiens parce qu'il parle plusieurs langues et qu'il les a côtoyés dans le commerce de fourrure, il adapte aussi ses techniques, il utilise les raquettes en hiver, il voyage beaucoup plus léger, il est capable de frapper rapidement. Toute sa vie, il va privilégier les attaques hivernales parce que, justement, le général hiver, lui, s'en fait un allié, au contraire de Napoléon qui s'est embourbé en Russie, au contraire des Anglais aussi, au contraire de certains Français aussi qui n'ont pas réussi à utiliser ce que l'hiver pouvait faire à l'ennemi plutôt que de le subir soi-même. Et donc, il connaît la géographie parce qu'il est né sur le territoire. Avoir froid aux pieds, ça ne le dérange pas. Et il est capable de, rapidement, on voit qu'il y a un ascendant sur les... Il y a un respect des hommes parce qu'il apprécie à la fois son courage et aussi sa prudence. Parce que si tu n'as jamais perdu une bataille en 20 ans, il ne faut pas que tu sois trop téméraire non plus. Mm-hmm. Donc, c'est quelqu'un qui est capable d'analyser la situation dans un premier temps et de convaincre les gens de faire ce qu'il faut pour parvenir à ses fins.
Parliez des attaques en hiver. Il va mener une attaque, une offensive durant l'hiver 1690. Le gouverneur de la Nouvelle-France, Frontenac, lance trois attaques, dont l'une dans l'État de New York à Schenectady, qu'il dirige. Oui. C'est en février 1690, c'est en plein hiver, c'est vraiment pas à la porte, là. Faites-le en auto, vous allez voir que Schenectady, c'est loin. Mais c'est une attaque dure contre un village d'anglo-américains.
De colons anglo-américains. Anglais, oui.
Parlez-nous de ça, parce qu'on... On peut dire que c'est une page plus sombre, plus difficile.
Oui, bien, c'est-à-dire que c'était justement à la suite des attaques iroquoises incessantes sur Montréal. Montréal, à cette époque-là, vivait dans la terreur des attaques iroquoises. N'était qu'un fortin de palissades et qui pouvait se faire à tout bout de champ attaquer par les Iroquois. Et le gouverneur et lui avaient compris que les Iroquois étaient armés par les Anglais plus au sud. Et donc, il a dit, bien, on va aller les frapper au cœur, là où ça fait mal, et on va aller les attaquer chez eux. En plein hiver, alors ils s'y attendent absolument pas. C'est une petite bourgade, un petit fortin de palissade. Ils attaquent en hiver, en raquette, en pleine nuit. Ils brûlent, ils tuent, ils scalpent et ils repartent. Ils en laissent aller quelques-uns pour qu'ils puissent raconter la terreur de d'Iberville. Et ils repartent aussi vite qu'ils sont arrivés. Les Anglais sont embourbés dans la neige, ils ne peuvent pas le rattraper, puis il est déjà parti. Donc, bien sûr que... moi, c'est ça, ça... Je veux dire, à partir du moment où tu fais la guerre, à partir du moment où tu es un soldat, un soldat gentil qui tue des gens gentiment, ça n'existe pas, là. Je veux dire, à un moment donné, il faut accepter que quand on fait la guerre, ben malheureusement, ça va coûter des vies humaines. Parfois, ça va être violent. En fait, le plus souvent, ça va être violent. Et ça fait partie de son caractère. Et ça fait partie de lui, moi, je veux dire.
On pourrait dire aussi que c'est une riposte à ce qu'il y avait eu, le massacre de la Chine.
De la Chine, exactement.
De 1689. Ouais. Les contemporains parlent d'une centaine de morts. Les dernières données disent qu'il y en a eu moins qu'on pense, mais ça a créé une frayeur.
C'est un traumatisme. C'est un absolu traumatisme. C'est à la suite de ça qu'on fait venir, d'ailleurs, le régiment Carignan-Salière.
Non, pas tout à fait.
Qui était venu déjà avant.
Ça, c'était en 1665, mais je comprends ce que vous voulez dire.
Mais c'est dans cette logique-là qu'on faisait venir des soldats pour dire bien, il faut protéger absolument cette ville et cette jeune colonie qui n'est pas capable de se défendre contre des attaques de guérilla, en fait.
Oui, en effet. Là, en 1694, il va retourner en Baie-du-Son. Peut-être nous raconter pourquoi à ce moment-là.
Bien, c'est parce que ça joue... Lui, d'Iberville, ses exploits sur le terrain vont systématiquement être contrecarrés, contrariés par les perruques de Versailles. Parce que à chaque fois qu'il gagnait un territoire, souvent la France le rétrocédait à l'Angleterre par un traité. Et d'ailleurs, il y aura ce mot aussi, bête comme un traité de paix. Parce que pour lui, ça sous-entend, OK, là, vous avez recédé la baie du Tson, là, je suis encore pogné pour y retourner parce qu'il faut faire la job, parce que là, vous l'avez cédé. Donc là, à ce moment-là, c'est probablement au cours de cette... Je ne sais pas si c'est là ou la deuxième, mais au cours de ces bagarres. Et là, cette fois-là, il retourne en navigateur, donc par le nord. Il contourne le Québec, la Terre-Neuve, il contourne par la baie d'Ungava, par le nord. Et là, c'est là, au cours de ce voyage-là, qu'il assoit sa légende de corsaire intrépide et en fait, je veux dire, invincible, hein, littéralement invincible. À partir de ce moment-là, il va être la terreur des Anglais sur le continent américain parce qu'au début, il est à la tête d'une flottille de 3 vaisseaux et qui s'en va reprendre le fort en bas, le fort Nelson. Et le matin, il y a de la brume se dégage, il aperçoit 3 navires anglais, il fonce sur eux sans ni une ni deux. La brume se dissipe, il s'aperçoit que ses 2 autres vaisseaux ne sont plus avec lui. Donc, il attaque 3 vaisseaux à 1 contre 3. Ceux qui ont déjà joué à risque, là, le jeu de table, attaquer à 1 contre 3, ça n'a aucun sens. C'est suicidaire. Lui le fait, et au cours d'une bagarre qui dure plusieurs heures, là, c'est genre 6 heures à se canonner sans arrêt dans les glaces de la baie du Tson, lui, il coule un bateau, il en met un en fuite, puis il en capture un. Et là, il arrive avec son fameux navire, le Pélican, qui fait partie de sa légende. Et d'ailleurs, si vous allez à Radio-Canada, il y a la petite réplique du Pélican de d'Iberville, dont on s'est servi pour faire le tournage de l'émission sur d'Iberville avec Albert Miller dans le rôle-titre. Si vous êtes descendu en bas dans la Grande Tour, vous allez la voir, cette réplique-là. Ce navire-là de 42 canons, qui est un vrai, vrai navire de guerre, un authentique navire de guerre, qui ressemble un peu à la licorne dans Tintin, la licorne. C'est un vrai bateau de guerre et qui a fait la gloire et la fortune de d'Iberville. Et là, il arrive au fort Nelson, son bateau est à peu près à moitié coulé. Et les Anglais disent « Ah oh non, pas encore d'Iberville », et ils sortent les mains sur la tête. Et ils capturent le fort, ils capturent les fourrures, et ils reviennent à Québec encore avec ça.
Et 2 ans plus tard, c'est au tour de Terre-Neuve. Et là aussi, c'est vraiment...
Oui, alors...
Ça fait aussi sa légende.
Oui, parce qu'à Terre-Neuve, ce qui se passait... Si on veut comprendre l'histoire, il faut d'abord comprendre la géographie. Il faut comprendre comment le territoire est organisé, puis pourquoi se passent les événements qui se passent. Donc... À l'embouchure du Saint-Laurent, dans l'espèce de tenaille du golfe, il y a au nord Terre-Neuve, au sud l'Acadie. Et ces deux territoires-là sont convoités et opérés par les Anglais jusqu'à temps que d'Iberville aille libérer ça, parce qu'il s'aperçoit rapidement que si les Anglais contrôlent ces deux pinces-là, bien, l'accès au fleuve et donc à la Nouvelle-France va être coupé pour la France et donc ça va être la mort de la colonie. Et donc, à Terre-Neuve, on l'envoie effectivement récupérer les pêcheries de morue qui sont sur le littoral sud de Terre-Neuve et le littoral est. Et lui, ça se ramasse là, toujours le même modus operandi, en hiver, avec des Canadiens, donc des
soldats. Oui, des volontaires. Des volontaires, d'ailleurs, parce que sa légende est tellement forte que...
Mais voilà, c'est qu'à un moment donné, tout le monde va aller se battre pour lui. Les plus toughs ont compris que c'est avec lui que ça se passe, d'autant qu'on partage le butin. Donc, on a tout avantage à s'allier avec quelqu'un qui va gagner. Et lui, donc, il est mandaté à la fois pour évincer les Anglais de Terre-Neuve et récupérer le commerce des morues, qui est très, à cette époque-là très lucratif. Et lui-même va en faire bon usage pour sa fortune personnelle. Donc, en même temps qu'il met son épée au service de son roi, il se remplit le porte-monnaie aussi.
Oui, parce que c'est ça, il faut peut-être comprendre ce qu'est un corsaire.
Voilà, alors la figure du corsaire, c'est en d'autres termes, c'est un pirate légitimé. C'est un pirate d'État, en fait. Donc, oui, il y a des lettres...
C'est du partenariat public-privé.
Ben oui, c'est un peu... C'est vraiment ça, en fait. C'est exactement ça.
C'est comme ça que je le présente à mes étudiants. C'est un PPP.
Oui, c'est très juste de le présenter comme ça, parce que le roi de France dit, bon, nous, il faut mettre les Anglais dehors. D'Iberville dit, OK, ça prend des bateaux, des canons, des armes, il faut que je paye mes marins, il faut que je paye mes soldats, il faut que je paye mes provisions, fait que donne-moi de l'argent. Et souvent, ce qui se passe, c'est que le roi dit, j'ai pas une scène, moi, tu signes un beau papier, tu es autorisé à manœuvrer au nom du roi de France, Donc, tu peux recruter tes gens, tout ça, et paye-toi avec ton butin, en fait, donc avec ce que tu vas ramasser.
D'ailleurs, en France, ceux qui s'occupaient des impôts, c'était comme ça qu'on fonctionnait. Tu dois me ramasser tant d'argent dans telle région, et puis tu ramasses l'argent, et puis tu gardes ta cote. Ouais, alors, c'est un peu la même façon qu'on fonctionne avec les pirates ou les corsaires.
Oui, voilà. Donc, ce qu'il dit, corsaire, évidemment, quand on voit un corsaire, on voit... Le capitaine Morgan avec un pied sur le baril de Rome, son grand chapeau emplumé. Il y a une certaine noblesse, une certaine élégance au corsaire, mais ça demeure pas moins que c'est un pirate. On l'a bien vu à Schenectady, puis à Terre-Neuve, c'est épouvantable. Il fait des razzias dans les villages et c'est sauvage, c'est très sauvage. Mm-hmm. C'est violent, c'est sauvage, c'est brutal. Et ça permet aussi de le faire précéder par sa réputation en disant « D'Iberville s'en vient, tous aux abris ». Rangez vos enfants parce qu'il va les manger pour souper. Et donc, il se rend rapidement très maître de Terre-Neuve et des pêcheries de morue. Il a l'ambition, à cette époque-là, même de se faire nommer gouverneur de Terre-Neuve pour gérer la morue, justement, puis protéger ce territoire-là, qui est le verrou aussi entre la baie du Tson, parce qu'on passe entre Terre-Neuve et le Québec, puis le Labrador, pour aller en la baie du Tson, et la porte d'entrée du golfe et de la colonie plus au sud. Mais les rois de France ne veulent pas nommer un Canadien. Donc, déjà, les maudits Français ont déjà des préjugés à l'endroit des Québécois et considèrent que ces gens-là, considèrent les natifs de la Nouvelle-France comme des rustos indignes de fonctions politiques ou protocolaires.
En tout cas, ça viendra plus tard, puisque Vaudreuil, le dernier gouverneur de la Nouvelle-France, sera un Canadien, mais ça viendra plus tard.
Probablement parce
c'était
que
c'était prématuré, probablement.
À cette époque-là, il n'y avait plus aucun Français qui voulait de la job.
Probablement. Terre-Neuve, hein, poste de prestige. On peut maintenant, c'est en Louisiane. Là, après, dernière étape où il se distingue et on le considère comme le fondateur de la Louisiane, ce qui est presque injuste pour Cavalier de la Salle, mais ça serait un autre débat.
Ouais, c'est ça.
Mais comment ça se passe? Comment il en vient à se tourner vers la Louisiane?
Bien, d'abord, c'est ça que moi que j'aime de cette figure-là, c'est que, oui, c'est une figure soldatesque et militaire et un habile guerrier, manœuvrier, mais c'est aussi quelqu'un qui va voir plus loin que le bout de son arquebuse, parce que... Le Mississippi, vous en avez parlé tout à l'heure, avait été exploré par La Salle et Joliette, mais on avait dû interrompre l'exploration vers le sud à cause des guerres amérindiennes. Ils avaient dû retourner. Donc, on se disait, il doit bien déboucher à quelque part, mais où, on ne le sait pas. Peut-être en Californie, peut-être au Texas ou peut-être dans le golfe du Mexique. Donc, a priori, on l'envoie comme explorateur cette fois-ci, non pas comme guerrier, mais comme explorateur pour découvrir la bouche du Mississippi. Parce que le Mississippi, en remontant vers le nord, ça nous mène à la vallée de l'Ohio, ça nous mène au Grand Lac, ça nous mène au Saint-Laurent. Donc, ça nous permet d'accéder à la Nouvelle-France, au Canada, par le sud. C'est une autre porte d'entrée. Donc, on se dit tout d'un coup que le golfe est bloqué par les Anglais. On va pouvoir avoir accès au territoire. Donc, comme explorateur, ça ne prend pas tellement de temps. Il y avait des indications contraires de d'autres explorateurs. Donc,
parce que Cavalier de la Salle s'était rendu jusqu'au golfe du Mexique, mais il n'avait pas été capable de trouver l'embouchure à son deuxième voyage.
Et lui, ça n'a pas trop pris de temps. Il a étudié les cartes, puis ce qu'on avait dit, puis vraiment, il a été assez rapide. Ou bien il a été chanceux, ou bien il était vraiment bon, peut-être les deux.
Ouais.
Mais ça a été assez rapide. Et là, il a trouvé l'embouchure. Dès le début, il a commencé aussi à des alliances avec les Amérindiens. Parce que il y avait déjà les Espagnols qui étaient à Pensacola, en Floride à côté, mais eux n'étaient pas très, très bien posés sur ce territoire-là. Ils étaient à l'époque alliés des Français. En fait, ils étaient des alliés circonstanciels. Tous les deux avaient peur et détestaient les Anglais, donc ça les rendait complices des fois. Et les Anglais étaient jusqu'en Caroline, en fait, jusqu'à la Floride, confinés donc par les Appalaches, mais rapidement... ils faisaient des sorties de l'autre côté des Appalaches et ils avaient des vues sur le reste du continent, bien sûr, bien évidemment. Et d'Iberville disait, il faut que les populations amérindiennes, qui étaient très nombreuses à cette époque-là, avant que les Américains les déplacent de l'autre côté du Mississippi avec la route des larmes, mais à l'époque, il y avait plein de différentes nations qui se faisaient souvent la guerre entre elles, à cause des Anglais, justement, qui les montaient les uns contre les autres. Mais d'Iberville disait, les Amérindiens pourront servir à la fois de bouclier contre les Anglais s'ils veulent déborder les Appalaches et aussi de force d'attaque si on veut les attaquer par l'arrière. Et donc, il a entrepris rapidement des entreprises diplomatiques pour pacifier ces nations-là entre elles et les mettre du côté des Français aussi. Et donc, à partir de ce moment-là, il explore le Mississippi, il connecte et il fonde le fort de Mobile, de la rivière Mobile, qui est en Alabama maintenant, Mobile en Alabama, où il y a d'ailleurs une statue de lui. Si vous allez à Mobile en Alabama, vous allez pouvoir voir une statue de d'Iberville. Il a fondé aussi Biloxi, au Mississippi. Et il a été, à ce titre, le premier fondateur et ou gouverneur de la Louisiane, de ce qui va devenir la Louisiane.
Mais justement, mais comment il voyait la Louisiane? Est-ce qu'il voyait la Louisiane comme une vraie colonie de peuplement ou un poste de commerce? Comment il voyait ça? C'était quoi, c'est quoi ses aspirations pour la Louisiane?
C'était essentiellement pour emmerder les Français, les Anglais, en fait, et empêcher que les Anglais débordent du continent. Mais rapidement, il fait venir des Amérindiens et des coureurs des bois pour le trafic de fourrure. D'abord pour lui, personnellement aussi, parce qu'il s'en met plein les poches quand il y a des cargaisons de fourrure. D'ailleurs, il attend toujours un petit peu, quand il est mandaté par le roi, il attend toujours un petit peu avant de s'en revenir qu'il y ait une cargaison de fourrure d'hiver qui arrive, puis là, oups, il ramène ça en France ou il ramène ça. Fait qu'il joint l'utile à l'agréable, si on veut, avec la fourrure. Et il fait venir des coureurs des bois aussi. Et ce qui ne fait pas plaisir aux marchands de fourrure canadiens du Nord, donc de sa patrie d'origine, qui laisse traîner sur lui des commérages, salisse sa famille à Montréal, qui reste et ça le blesse énormément, parce qu'il entretient une correspondance avec sa famille et il dit « Mes frères, malheureusement, et ma famille souffrent de mes aventures en Louisiane. » Et ça le blessait, ça l'embêtait, parce que les marchands, évidemment, voyaient le commerce de fourrure qui était détourné, le commerce des Grands Lacs. Soit il partait par le Saint-Laurent au nord, ou soit d'Iberville, lui, voulait le faire descendre en Louisiane. Et à cette époque-là, en 1701, il peine aussi, ça, on n'en a pas parlé, mais il peine beaucoup à intéresser Versailles, le roi de France, Pontchartrain, à la Nouvelle-France, parce que c'est un grand territoire et il n'y a pas eu vraiment de découverte de mines d'or, ce qui intéressait beaucoup le roi à l'époque pour les armuries, pour les fonderies, c'était les métaux, l'or, les mines, en fait. Il n'y en avait pas tant que ça en Nouvelle-France et il peinait à dire, bon, ben, il y a de la fourrure, oui, mais encore, il y a des fleurs, il y a des plantes, oui, mais encore, il y a de la morue, oui, mais encore. Pour le roi, ça coûtait cher, la Nouvelle-France, il était occupé ailleurs aussi en Europe. Et il avait de la misère à se faire légitimer puis à dire « il faut peupler ». Et il a dit au roi de France, dans un mémoire, « il faut absolument s'occuper de la Louisiane puis de peupler, parce que sinon, d'ici 100 ans, les Anglais vont traverser les Appalaches et ils vont se rendre maîtres de tout le continent ». Et c'est exactement ce qui est arrivé.
Oui, il y a un mémoire, en effet, que j'ai relu, qui est cité par Frégo, qui est vraiment prophétique, c'est incroyable. Mais en même temps, il réussit pas à attirer autant de colons qu'il voudrait, d'intéresser Versailles. Mais lui, en tout cas, il a des projets par rapport justement aux Anglais. Il a en tête opérations au tout début du 18e siècle. Oui. Et c'est pas piqué des verres.
Non, c'est pas de la petite bière. Juste pour terminer avec le tiraillement, si on peut dire, avec la Louisiane, c'est qu'au même moment où il fonde la Nouvelle-France en 1701. Il y a mon ami Cadillac, Antoine Lamotte, qui, lui, s'en va fonder Détroit, qui est mandaté par Frontenac pour aller fonder Détroit. Donc, il part de la Nouvelle-France en 1701 avec des canots, des rabascas, 100 personnes, et il s'en va à la colonie de Détroit, qui est l'endroit le plus étroit entre Windsor, la rivière Détroit, on peut permettre de contrôler l'accès au Grand Lac avec ça. Et donc, cette colonie-là, à cause justement de sa mauvaise administration, parce que Cadillac vend de la fourrure aux Anglais, vend de la boisson aux Amérindiens, s'engueule avec les Jésuites, puis il fourre ses colons en les surtaxant. Donc, il se met à dos tout le monde. Il y a un procès à Québec. Et vers 1710, on songe même, l'administration coloniale songe même à fermer carrément Détroit, à mettre la clé dans la porte pour rapatrier la colonie en Louisiane. Bon, finalement, ça ne s'est pas fait. Cadillac a même été, j'ai jamais compris pourquoi, après son procès, on l'a nommé gouverneur de la Louisiane. Donc, pour le récompenser, on l'envoie avec les alligators et les mouches. Puis après ça, lui, il est retourné en France.
Mais vous voulez dire qu'autrement dit, il y avait comme une concurrence entre Détroit et...
Voilà, et Détroit et la Mobile. Exactement. Ah, ouais, okay. Il y avait une concurrence de ouais. ressources parce qu'on ne peut pas affecter tous les colons non plus, tout l'équipement, toutes les ressources. Et ça a été finalement un peu mi-figue, mi-raisin. On a investi dans ni l'un ni l'autre, puis ce qui fait qu'on les a plus ou moins perdus.
Mais pendant ce temps-là, il avait des projets, des opérations rapidement.
Il retournait souvent en France. Et là, moi, c'est ça qui m'étonne aussi. C'est qu'on parle depuis tantôt d'un pirate, d'un guerrier sanguinaire, d'un explorateur qui parle avec des Amérindiens. Et quand il retourne en France, il faut l'imaginer en escarpin avec sa perruque. Et là, il faut qu'il convainque, il faut qu'il aille faire des révérences dans les salons. Il faut qu'il convainque les courtisans, les barons, plein de gens de s'intéresser. Il faut qu'il y ait des gens de commanditaires. T'sais, on parle de partenariat public-privé, mais il faut aussi qu'il trouve des commanditaires qui s'intéressent à ses projets. Donc, parmi la haute cour de Louis XIV. Et donc, là, pour ça, il faut qu'il s'habille bien, il met sa perruque, puis là, ben, peut-être qu'il laisse son épée au vestiaire, puis là, ben, il met de l'avant ses belles manières. Et il essaie justement de convaincre le roi qu'il faut s'occuper des Anglais rapidement dans les colonies, parce que sinon, ils vont prendre le continent. Et il a comme projet, vers la fin de sa vie, de pouvoir aller bombarder New York et Boston, parce que c'est là que ça se passe. Et vers la fin de sa vie, donc là, on parle des années 1703 à peu près, il est souvent malade, il a la fièvre, la malaria, et ça le ralentit dans ses projets. Quand il est prêt à partir, il a la fièvre. Après ça, Pontchartrain ne veut plus qu'il parte. Fait que sa fin de vie est un peu difficile. Lui qui a tellement conquis tout le continent, vers la fin, il est bloqué entre la fièvre et l'administration. Et ça le ralentit. Et par contre, il a le temps d'échafauder ses projets. Mmh. Puis vraiment, vraiment, lui, c'était l'idée de faire une Amérique française au complet. Et en 1703, il part. Il réussit à avoir une petite escadrille de bateaux. Il va à Nevis, dans les Antilles, attaquer les Anglais. Encore là, avec une sauvagerie, une brutalité et un succès inégalé. Et à la fin de sa vie, il se stationne à La Havane. Il ancre son bateau dans la baie de La Havane pour s'allier avec les Espagnols pour aller attaquer New York et Boston. C'est son grand projet qu'il ne pourra jamais réaliser parce qu'il n'a perdu qu'un seul combat, c'est contre la mort, en fait, qu'il l'a surpris en 1706 à La Havane dans des circonstances extrêmement mystérieuses qui sont jusqu'à ce jour non élucidées par les historiens. Il y a plusieurs hypothèses, une que ce soit voulant que ce soit la fièvre qui l'ait emporté, finalement parce que à Versailles il était attaqué par la fièvre au point de pouvoir y rester presque. Et là donc c'est possible, il y avait aussi des épidémies sur son bateau à Cuba aussi, et une autre voulant que il ait fait un souper avec un corsaire espagnol sur son bateau dans la baie de La Havane, et les deux sont morts le même jour, le même soir. Il y en a qui disent qu'il aurait pu être empoisonné par des espions anglais, ce qui n'est pas impossible, considérant le cauchemar qu'il était pour les Anglais et les plans et les dessins qu'il avait.
Qui avait peut-être été connu.
Oui.
Ouais. On n'a pas beaucoup, nous, vous le disiez, connu Pierre Lemoyne d'Iberville. C'est quand même incroyable que ces restes soient encore à La Havane, qu'on n'ait pas pensé les rapatrier. On devrait peut-être lancer une pétition. Ouais. Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, tout à fait, parce que c'est presque comme le tombeau de Champlain. Ça fait partie de la mythologie. Si vous allez à La Havane, dans le vieux port de La Havane, il y a une statue de Pierre Lemoyne d'Iberville qui est connue là-bas par les Cubains sous le nom de El General Don Pedro Berbila. Et il a été enterré à l'église San Cristobal, qui a été déménagée pour devenir une cathédrale. Et ce n'est pas clair, est-ce qu'on a déménagé ces restes de l'église à la cathédrale ou est-ce que ces restes sont encore à la petite église? Ça resterait à élucider. Ça prendrait une entreprise, effectivement, diplomatique, peut-être pour aller faire des fouilles. Conjointe Cuba, Québec, qui sait, Canada. Et maintenant, voilà jusque dans sa mort, il nous aurait échappé, en fait. Il aurait été entouré de mystères. Et oui, on pourrait rapatrier ses ossements dans un panthéon, mais on aurait surtout un grand film à faire. S'il y en a qui cherchent des scénarios, là, même pas besoin de romancer, là, sa vie est plus intéressante que le pirate des Caraïbes et on pourrait intéresser les jeunes à l'histoire assez facilement.
Merci beaucoup, Biz.
Avec
merci
plaisir.
Beaucoup. Avec plaisir. Merci. Alors, je crois que pour terminer et pour conclure, vous avez un texte à nous réciter, un texte d'ailleurs écrit, je crois, par vous, par votre groupe, Locolocas, qui peut-être résume un peu.
Oui, c'est ça. C'est un texte tout à propos qui s'appelle Les Géants et qui parle des grands héros de la Nouvelle-France, dont Pierre Lemoine d'Iberville. Nous sommes issus d'un sol immense qui nous a tissés, métissés, rebut de brins de laine tressés, très serrés, sans couture au sein d'une ceinture fléchée, comme quelques queues clinquantes de comètes effilochées. Et si l'on suit une file de notre textile, mène à la sortie du labyrinthe de Pan, qui nous éreigne depuis qu'ils ont mis nos torts dedans. Ils ont conquis nos territoires, pillé notre histoire et volé notre mémoire. Avec leur thèse de fou, ils nous ont dit « Taisez-vous ». Vous êtes comme Thésée, sans sa ficelle, perdu, déboussolé. Vous n'êtes pas vous, vous êtes nous. Vous êtes dissous, vous ne valez pas dissous. Notre substrat vous subsume et la comparaison vous consume. Faux, nous venons d'avant, nous sommes antérieurs. Nous sommes des créateurs, pas des créatures, pas des caricatures. Notre maison n'a pas de cloison, mais quatre saisons. Acclimatés au climat et faisant fi du frima, nous avons parcouru par ses artères tout un continent titan. Notre espèce s'aspire à l'espace et son empreinte est partout. Tapis dans la toponymie, gravé dans le granit, arc-bouté dans les arches de nos dingues dig-dig de la muraille de Chine, dans les champs essouchés sous la lune et les racines d'un être qui ne peut plus plier. C'est une histoire riche qui n'est sur aucune affiche et qu'on a laissée en friche dans nos caboches. Ce n'est que roche et fardoche, cosmogonie à l'agonie, dans le tome fantôme de nos mémoires moisies. Sur nos épaules, on porte pourtant le pack-sac d'un passé épatant. Mais allons-nous mourir en nains quand nous sommes nés géants? Sitôt venus au Nouveau Monde, on a dompté les hivers et fabriqué de la terre. On avait la tête à la fête et le cœur au labeur. Opiniâtre, on n'a jamais laissé mourir le feu dans l'âtre, car nous avons la tête à Papineau. La longue langue loquace de D'Acosta, les babines de la Sagouine, le cœur corsaire de D'Iberville qui envoie en nos veines le pur sang mêlé de Riel et des Premières Nations. Nous avons l'aviron de Radisson, la vigueur de la Vérandrie, les jarrets de Joliette et tous les talents de l'intendant Talon. En somme, nous sommes des surhommes uniques, générés par le génie génétique de l'Europe et de l'Amérique. Inéluctablement, nous voguons vers le néant, mais allons-nous mourir en nains quand nous sommes nés géants?
Merci. Merci. Alors, si vous voulez en savoir plus sur Pierre Lemoine d'Iberville, alors il faut vous procurer la biographie de Guy Frégaud, Iberville le Conquérant, qui a été réédité il y a quelques années chez Guérin. Je vous invite aussi à lire le dernier roman de Biz, qui s'intitule Cadillac, qui a été publié chez Loméac, donc il y a quelques mois, en 2018. Alors, merci et à bientôt.
Merci.
Vous souhaitez en connaître davantage sur ces figures marquantes? Inscrivez-vous au cours HIS 4000 de l'Université TELUC, un cours consacré à la Nouvelle-France.